Merci, bien bonjour à tous et à toutes. Merci encore pour votre invitation, merci pour ces louanges à la gloire de notre Seigneur. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. On aurait pu dire, elles auraient pu partir en courant les jambes à leur cou. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et le verset 6 qui suit, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Il est vraiment ressuscité. Nous sommes une semaine après Pâques et une semaine avant Pâques, le pasteur Philippe Leperru a partagé avec vous qu'est-ce qui s'est passé une semaine avant Pâques. Quels étaient les personnages qui étaient autour de Jésus avant Pâques? Puis il y a eu Pâques, il y a eu des personnages autour de Jésus. Et là nous allons voir l'après-Pâques. Alors vous savez que Pâques, c'est une période tout à fait spéciale pour les chrétiens. C'est un moment très important de souvenir. C'est un moment riche en émotions, riche en enseignements. Et ô combien le plus important, riche en conséquences. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Si vous me permettez un petit retour dans le temps, simplement pour mieux comprendre ce qui a précédé Pâques et pourquoi Pâques a eu lieu. Je ne vais pas revenir complètement dessus. Hein. Mais vous savez que Pâques, c'est un dérivé d'un verbe hébreu qui signifie « passer outre », dans le sens de d'épargner. Hein, je conduis mon véhicule, quelqu'un est au milieu de la route, je fais un écart pour l'éviter, je passe outre. La première fois qu'il est question de la Pâque se trouve dans Exode au chapitre 12, versets 1 à 28. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, j'ai juste relevé un verset, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et quelques versets plus loin, il est dit ceci, c'est la Pâque de l'Éternel. Vous savez, c'est dans le contexte, quand le peuple était captif en Égypte, qu'il a été question de cette Pâque. Le sang de l'agneau devait protéger la maison et toutes les personnes qui s'y trouvaient, à condition d'avoir fait un acte de foi, à condition d'avoir répandu du sang sur les liteaux de la porte. Puis, Jean chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et la Pâque allait prendre une nouvelle et une autre dimension, non plus réservée exclusivement aux Israélites, mais à l'humanité tout entière, d'une part, et d'autre part, ce n'était plus l'homme qui devait offrir un sacrifice à Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui allait s'offrir par Jésus en sacrifice. Voilà pourquoi Jésus est venu, car Dieu nous a tant aimés. Tant aimés. Nous, aujourd'hui, il y a une pensée qui me vient, combien de fois n'avons-nous pas entendu « Oui, je, je t'aime tant, tu es l'amour de ma vie, hein, et jamais ceci et jamais cela. Et combien de couples se sont séparés? Combien de fois ce temps, hein, je t'aime tant, et puis le lendemain, je t'aime plus. Mais Dieu nous a tant aimés. Et il est même dit qu'il est le même avec nous hier, aujourd'hui et éternellement. Son amour ne change pas envers nous. Dans Ésaïe au chapitre 53 et au verset 7, le prophète écrit ceci, bien longtemps hein, avant, hein, dans l'Ancien Testament. Hein. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau, encore ce fameux agneau, hein, qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. C'était la volonté de Dieu d'envoyer Jésus en sacrifice. Et qui d'autre que Jésus aurait pu avoir cette attitude? Qui? Dans Jean, chapitre 1er, verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus est le seul qui puisse ôter le péché du monde. Le seul qui puisse ôter mon péché. Si je m'associe à ce qui s'est passé à Pâques. Et puis dans 1 Pierre, chapitre 1er, les versets 18 et 19, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, par de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut, sans tache. Et ce qu'il y a de formidable dans cela, c'est que l'homme le plus riche du monde, là, quelqu'un vient de gagner 13 millions d'euros, hein, le vendredi 13. Et aux États-Unis, quelqu'un a gagné, je ne sais pas combien, de centaines de millions de dollars. Ouais. Moi, je suis content pour lui, je suis content pour cette personne-là. Mais elle ne pourra jamais acheter son âme. Elle ne pourra jamais, même si elle ne dépensait pas un centime, acheter sa place au paradis. Cela nous rappelle aussi que Jésus était sans défaut, sans tache, comme l'agneau qui devait être sacrifié, sans défaut, sans tache. Qui mieux que Jésus pouvait se taire devant les traitements qu'il a subis? Qui mieux que Jésus pouvait être trouvé sans tache, pur comme un agneau? Je n'aurais personnellement pas pu prendre la place de Jésus. Jésus seul était pur, sans péché, sans défaut. Son sacrifice sur la croix a servi de signe pour tous ceux qui ont voulu et qui veulent s'y purifier. Dans Jean, au chapitre 19, les versets 31 à 37, dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, hein, et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés, pardon, et qu'on les enleva. Vous savez pourquoi on leur cassait les jambes? C'était pour qu'ils puissent mourir plus vite. Voilà. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre, qui avait été crucifié avec lui. Mais s'approchant de Jésus, Jésus était déjà mort. Ils n'ont pas brisé ses os. Et un soldat lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. Ce qui a été écrit des siècles avant s'est accompli. Aucun de ces os ne sera brisé. C'est fort. C'est fort parce qu'on s'aperçoit quand même que cette parole qui a été donnée à un prophète des siècles avant, sans forcément savoir point par point, trait pour trait, ce que cela voulait dire, mais il a écrit, ça a été transmis et cela s'est accompli. Mais l'histoire, aussi terrible soit-elle, ne s'arrête pas là. Vous avez sûrement lu, enfin vu plutôt, le film La Passion du Christ. C'est fort, en émotion, c'est sanglant. Mais quand on battait quelqu'un, quand on crucifiait quelqu'un, c'était pas qu'une image. Jésus est mort sur la croix. Souvent dans les églises, on voit la croix et on voit bien cette représentation de Jésus. Mais moi, dans mon église, il n'y a personne sur la croix. C'est une croix vide. Parce qu'il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et ce n'est pas une fin en soi. On aurait pu se dire, il est venu, il est mort, il est ressuscité, et poum, c'est fini. C'était une belle histoire. Mais ce n'est pas une fin en soi, c'est le commencement d'une nouvelle vie, d'un nouvel espoir, d'une nouvelle espérance. Car Dieu, Esprit, allait remplir nos cœurs. Il fallait que cette histoire arrive. Jésus est mort, mais il est ressuscité. La Pâque s'est accomplie. Le sang de Jésus versé sur la croix a écarté la mort de notre âme. Certes, mon corps retournera à la poussière, mais mon âme ira au ciel avec le Seigneur. Pourtant, vous savez, elle n'était pas évidente, cette résurrection. Même si elle avait été annoncée dans l'Ancien Testament. Ésaïe, encore lui, a écrit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Il a fallu qu'il souffre. Jésus aurait très bien pu ne pas passer par la souffrance. Oui, mais il n'a pas été épargné. Jésus lui-même avait averti ses disciples. Il avait dit, attention, écoutez bien ce qui va se passer. Il avait donné des détails. Dans Matthieu, chapitre 16, verset 21, « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup. » De la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes. Donc là, il parle même d'abord d'une souffrance morale. Il a été accusé à tort. Aimons-nous être accusé à tort? Je ne crois pas. Enfin, en tout cas, pas moi. Et Jésus était accusé à tort. Et pourtant, moi, parfois, comme on dit, je ne suis pas 100% clean. Mais est-ce qu'on pouvait accuser Jésus de ne pas être dans la vérité? Est-ce qu'il était saint à 99, quelque chose? Non, à 100%. De quoi pouvait-on accuser Jésus? Donc souffrance morale, puis il dit encore qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Je ne sais pas si les disciples avaient vraiment saisi ce sens. Vous savez, les gars, dans quelques jours, on va rentrer dans Jérusalem, je vais être arrêté, je vais souffrir, je vais être condamné, je vais être humilié, on va donner de faux témoignages sur moi, pas simplement en tête à tête, non, devant tout le monde. Même mon peuple va me tourner les talons, va me tourner le dos. Je vais être battu, je vais être crucifié, mais je vais ressusciter le troisième jour. Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Il a vaincu la mort, il a pris nos péchés. Jésus-Christ ressuscité est pour nous chrétiens la base même de notre foi. 1 Corinthiens chapitre 15 versets 12 à 19. Je l'ai déjà lu avec vous, mais Paul écrit ceci. Hein, c'est un petit peu un brainstorming, comme on dit, hein, une prise de tête, une réflexion. Vous savez, les réflexions quand on va dans un sens et puis qu'on revient dans l'autre sens pour accentuer la pensée. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, vérité. Comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ? Là, il revient dans l'autre sens. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, à quoi sert la foi ? À quoi sert notre foi ? Ben, notre prédication. Ma prédication, là, en cet instant, elle ne sert à rien. On est en train de perdre notre temps. Ça ne sert à rien. Ce serait un discours philosophique creux. Et ma foi serait vaine. Pourquoi parler de vie éternelle ? Non. Autant parler de notre vie sur terre, point. Quelques versets plus tard, « Car si les morts ne ressuscitent point, ben Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » Voilà. Oui. Nous serions encore dans nos péchés parce que Christ, sur la croix, a porté mes péchés. Dieu a ouvert les bras sur nous tous, sans distinction de race. Il suffit de se regarder les uns les autres aujourd'hui. Sans distinction de couleur, de constitution, nous sommes tous égaux devant lui. Voilà le miracle de Pâques. Nous n'avons rien eu à lui apporter, rien à lui offrir, que moi, tel que tu es. Même si mon corps est complexe, je trouve qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. C'est pas grave. C'est pas grave parce qu'en dépit de cette complexité, le Seigneur nous connaît dans notre cellule la plus retranchée, surtout de ce qu'il y a là-dedans, parce que c'est la chose la plus compliquée de notre corps, c'est bien notre cerveau. Il est ressuscité pour chacun de nous, et ça nous devons le croire. J'espère que vous le croyez, j'espère que vous en êtes assurés. Comme nous l'avons entendu, la résurrection est la base de notre foi. Mais les disciples ont eu du mal à le croire. Ils étaient encore incrédules et ils n'avaient pas imaginé la dimension des paroles de Jésus quand il avait annoncé sa résurrection. Certains ont suivi Jésus depuis le début, va-t-on dire, ont suivi son arrestation, ont suivi sa condamnation, ont suivi sa crucifixion. Ils étaient là au pied de la croix. Mais en mince, ça se passe comme il l'a dit. Mais après, comme d'habitude, le crucifié, on le descend de sa croix et on l'emmène au tombeau. C'est fini. Marc chapitre 16, versets 1 à 13. Lorsque Shabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. C'était la tradition pour les corps. On allait les embaumer. Ne me demandez pas comment on faisait, hein, je ne sais pas. Mais il y avait tout un cérémonial de préparation de corps. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, très bonne question, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Parce que le tombeau avait été scellé. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Ah. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Ben oui, qui n'aurait pas été épouvanté? Il leur dit, ne vous épouvantez pas, ne soyez pas en crainte, n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'a mis. Vous ne vous êtes pas trompé. Vous êtes au bon endroit, mais il n'est pas là. Il est ressuscité. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla en porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Oui, ils étaient tristes, leur maître était parti, il était mort, et ils pleuraient son souvenir, ils pleuraient sa personne. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils se réjouirent. Non, ils ne crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ça, on le verra la prochaine fois. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui se réjouirent. Non, ils ne le crurent point. Puis il y a eu l'épisode de Thomas. J'anticipe sur la prochaine fois. Vous savez, Thomas, même encore aujourd'hui, moi je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Il a fallu que Thomas y mette son doigt dans les trous faits par les clous dans les mains de Jésus pour qu'il croie. Waouh! J'ai espéré pour lui maintenant qu'il avait une foi en béton. J'ai touché Jésus, j'ai bien vu que c'était lui. Alors c'était lui avant et c'est lui maintenant. Il a dû être bouleversé. Alors pour conclure, aujourd'hui pour manifester la réalité physique de la mort. Christ a été enseveli. Il est passé par toutes les étapes, là en l'occurrence d'un crucifié. Toutes les étapes ont été visibles. Il n'y a pas une étape qui a sauté. Il a été mis dans un tombeau. Non, on pourrait dire qu'il a été mis dans le cercueil, il a été mis après dans la tombe. Et puis on a remis dessus la pierre tombale. On parlait des personnes qui ont accompagné Jésus. Philippe Lepérieux en a parlé, je vous en ai parlé. Et là, on parle de ceux qui ont connu Jésus, on parle de ses disciples, mais il ne faut pas oublier une tierce personne, des tierces personnes, les soldats. Les soldats romains ont assisté au discours de Jésus, à l'arrivée de Jésus dans Jérusalem, à sa condamnation, à sa crucifixion. Certains même ont roulé la pierre et ont fait le planton devant la pierre. On appelle ça des témoins oculaires. Ce n'est pas du bouche à oreille, c'était des témoins oculaires. Et pour manifester la réalité physique de sa résurrection, il a été vu, Jésus a été vu par plusieurs personnes dans différents lieux. Il a été vu, pourquoi il a été vu? Car le tombeau était vide et qu'il était ressuscité. Dans Apocalypse, chapitre 1, versets 17 et 18, « Moi, dit Jésus, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'ai été mort, je suis passé par la case mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles, je suis passé par la case résurrection. » Et puis j'aimerais lire justement Matthieu 28, 11 à 17, je terminerai là-dessus pour ne pas vous mettre en retard. Justement sur ces soldats, parce qu'on ne pouvait pas dire qu'ils étaient à la solde de Jésus, ils étaient endoctrinés, voilà, je cherchais le mot. Donc ils étaient vraiment extérieurs à la foi. Donc pendant que nos femmes étaient en chemin pour annoncer que le tombeau il était vide, donc pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde, quelques hommes au pluriel, plusieurs, un témoignage est toujours validé par deux personnes, entrèrent dans la ville et annoncèrent à leurs copains, non, aux principaux sacrificateurs, ceux-là même qui avaient condamné Jésus, pour information. Ils sont allés leur dire tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, les principaux sacrificateurs, après s'être assemblés avec les anciens, ceux aussi qui avaient condamné Jésus, mais qui connaissaient les Écritures, ils avaient Ésaïe en rouleau à côté d'eux. Et après avoir tenu conseil, donc ils ont délibéré, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. » Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. C'est-à-dire, nous mentirons, nous manipulerons la vérité. Les soldats prirent l'argent, oui, pourquoi pas. Et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Détournement de la vérité, avec les conséquences que cela peut avoir. Mais le tout, mes bien-aimés, c'est de savoir que Christ est ressuscité. Et la prochaine fois, nous relaterons d'autres épisodes suite à cette résurrection et puis les conséquences de cette résurrection. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.